Bonjour à tous, bonjour Pierre-Jean. Vous êtes sur Radio Capas 93.5 et sur le net www.radiocapas.fr. Allegro Viaggi, l'émission de la musique classique, Max à l'antenne. Je rappelle qu'Allegro Viaggi est diffusé le dimanche à midi et le lundi à 20h. Aujourd'hui, nous continuons le cycle consacré aux symphonies de Gustav Mahler avec la 9e symphonie. La 9e symphonie en ré majeur. Théodore Adorno, le musicologue allemand, a reconnu en Mahler le premier compositeur depuis Beethoven qui ait eu un dernier style. Est-ce la raison pour laquelle certains auteurs estiment encore que dans la 9e symphonie, Mahler a mis en musique sa propre mort et qu'il était en 1909 ce grand malade que l'on écrit toujours comme hanté par le spectre d'une fin prochaine? En fait, à 49 ans, Mahler débordait encore de beaucoup d'énergie. Chaque année, il traversait l'Atlantique pour diriger de longues saisons d'opéra et de concerts aux USA. Une bonne partie de l'été 1909, celui qui a vu naître la 9e, il le consacre à lire des partitions pour préparer la première saison des concerts philharmoniques de New York, pendant laquelle il dirigera quelques 60 programmes, sans compter les répétitions. N'est-ce pas là, tout de même, un emploi de temps bien chargé pour un mourant? Et pourtant, on est bien obligé de reconnaître que la 9e symphonie, comme le chant de la terre qui l'a précédé, et dont nous parlerons plus tard, est né sous le signe de la mort. Mais on n'a pas cherché bien loin pour retrouver la mort dans le passé de Mahler. Dès son enfance, celle de sept frères et sœurs à bas âge, pour n'être pas tellement exceptionnelle à l'époque, ne l'a pas moins durement éprouvée, en même temps qu'il assombrissait sans cesse le climat de la maison familiale. En 1901, une grave hémorragie l'a menée jusqu'au bord du tombeau, et les œuvres qui composera l'été suivant avaient presque toutes un caractère funèbre. Quoi qu'il en soit, c'est en 1907 que Mahler va subir les plus grands traumatismes de son existence. Au cours de cette année-là, il va successivement quitter l'Opéra de Vienne, auquel il a donné le meilleur de lui-même pendant 10 ans, perdre au début d'été sa fille aînée, une enfant radieuse de 4 ans, à laquelle il était viscéralement attaché. À peine quelques jours plus tard, un médecin décède en auscultant un souffle au cœur et diagnostique une insuffisance mitrale. Sans doute sous l'influence d'Alma, que ses excès de travail inquiètent, les spécialistes viennois lui font peur. On lui ordonne désormais de renoncer à ses sports préférés, ce qu'il fera pendant plusieurs mois d'une manière presque obsessive, comptant chacun de ses pas, vivant comme un malade s'allongeant même dans les répétitions au Met de New York. Un an plus tard, cependant, la vie reprendra le dessus. Alma a loué à la fin du printemps 2 étages d'une grande maison située à quelques 30 kilomètres de Toblach, et elle a fait construire pour son époux une Componierhausen en bois, puis au début de l'été a entrepris une cure pour ses nerfs à Levico, près de 30. Les quelques semaines passées dans la solitude de son petit studio perdu au milieu des sapins vont rendre à Mahler son équilibre, car il unit l'hypersensibilité et les génies, un indomptable courage qui lui a permis d'affronter toutes les crises et de surmonter tous les chagrins. À Bruno Walter, qui de lui est la cru atteinte de mots psychosomatiques, il répond, avec une nuance d'agacement d'ailleurs, « Retrouver le chemin de moi-même et reprendre conscience de mes possibles qu'ici et dans la solitude. Car depuis que m'a saisi cette terreur panique à laquelle j'ai un jour succombé, je n'ai rien tenté d'autre que de regarder et d'écouter autour de moi. Si je dois retrouver le chemin de moi-même, alors il faut que je me livre encore aux terreurs de la solitude. » En tout cas, il ne s'agit absolument pas d'une crise d'hypochondriaque de la mort, comme vous avez l'air de le croire. J'ai toujours su que j'étais mortel. Sans essayer de vous expliquer ni de vous écrire quelque chose pour moi, il n'existe sans doute pas de mots. Je vous dirais que j'ai perdu d'un seul coup toute la lumière et toute la sérénité que je m'étais conquise, que je me retrouve devant le vide, comme si à la fin de ma vie, il me fallait apprendre à nouveau à me tenir debout et à marcher comme un enfant. La raison profonde de cette panique qu'il a saisie, Mahler l'a fournie à Bruno Walter dans la même lettre. Il a dû renoncer à tous ses sports favoris, la nage, la rame, les marches en montagne et la bicyclette. Je prétends que c'est la plus grande calamité qui m'ait jamais atteint. En ce qui concerne mon travail, il est assez déprimant de devoir tout réapprendre. Je suis incapable de composer à ma table. Pour un exercice intérieur, j'ai besoin d'exercice physique. Si je marche d'un pas tranquille et modéré, je rentre ensuite avec une telle angoisse, mon pouce accélère à tel point que je n'atteins nullement le but que je m'étais assigné, qui était d'oublier mon corps. Depuis bien des années, je m'étais habitué aux exercices les plus violents, courir les forêts, escalader les cimes, pour en rapporter des esquisses musicales tel un butin conquis d'haute lutte. Je ne revenais à ma table de travail que comme un paysan qui rentre sa récolte, uniquement pour donner à mes esquisses une forme. Peu à peu cependant, le miracle va se produire, et c'est en composant que Mahler retrouve le chemin de moi-même, écrit-il. La première œuvre achevée 15 mois après la mort de la petite Maria, est Le Chant de la Terre d'Aslit von der Erde, une œuvre hybride qui tient à la fois de la symphonie et du cycle de Lieder. Elle ne porte pas au début de sous-titres. C'est à New York, sans doute, pendant l'hiver 1908-1909, que Mahler note enfin sur un feuillet Le Chant de la Terre tiré du chinois et plus bas, 9e symphonie en 4 mouvements. Pour Beethoven, pour Schubert et pour Brunner, le chiffre 9 s'était avéré fatal. Mahler, lui, voudra tromper le destin. Sa 9e sera en réalité sa 10e et le cap redoutable sera franchi sans provoquer vraiment le sort. Pendant tout l'été de 1910, il travaillera avec une sorte de rage à sa 10e, sans doute à nouveau pour conjurer le destin qui s'avangera à lui interdisant à quelques semaines près de la terminer. Mais revenons à 1909. Une fois le style et le ton de sa dernière manière trouvé l'année précédente dans Le Chant de la Terre, Mahler poursuit sur sa lancée et entame immédiatement la composition de la 9e, sans doute esquissée, au moins en partie, durant l'été 1908. L'ouvrage est achevé l'année suivante. Dans la correspondance de Mahler, un silence presque complet règne sur son activité créatrice de l'été 1909, comme si le compositeur voulait minimiser l'importance de cette nouvelle partition qui porte un chiffre fatidique. « J'ai beaucoup travaillé et je suis en train d'achever ma nouvelle symphonie », écrit-il à Bruno Walter. L'œuvre elle-même est un heureux enrichissement de ma petite famille, pour autant que je la connaisse vraiment, car j'écris jusqu'ici comme un aveugle pour me libérer. Maintenant, je commence tout juste à orchestrer le dernier mouvement et je ne me souviens même plus du premier. Quelque chose y est dit, que j'avais depuis longtemps au bord des lèvres, quelque chose que dans l'ensemble on pourrait mettre à côté de la 4e et qui est pourtant tout à fait différent. La partition a été écrite à une vitesse folle et elle est illisible pour d'autres yeux que les miens. J'espère de tout cœur que le temps de la mettre au net me sera accordé cet hiver. La comparaison avec la 4e symphonie est pour le moins inattendue et l'on ne voit guère que le nombre des mouvements qui sont communs aux deux partitions. Mais ce qui frappe le plus dans ces lignes, c'est l'extrême réserve de Mahler en comparaison des termes exaltés dans lesquels il parlait autrefois de la 3e ou de la 8e symphonie, par exemple, pendant leur composition et de nouveau après leur achèvement. Mais il sait bien qu'il est devenu un homme nouveau. Il écrit « Sur moi-même, il aurait trop peu à écrire pour que j'essaye seulement de commencer. J'ai vécu depuis un an et demi tant d'expériences nouvelles que je suis incapable d'en parler. Est-il tout simplement possible de décrire une crise aussi terrible ? Je vois tout sous le jour, un jour nouveau, et mon évolution est tellement rapide. Je ne m'étonnerai même pas si un matin, je m'éveillais avec un corps nouveau, comme Faust dans la dernière scène de la 8e symphonie. Plus que jamais, la soif de vivre me tient au corps, plus que jamais je trouve agréable la douce habitude d'exister. Comme il est absurde de se laisser submerger par les tourbillons du fleuve d'existence. D'être infidèle ne fut qu'une seule heure à soi-même et à cette puissance supérieure qui nous dépasse. Et pourtant, alors même que j'écris cela, je sais déjà qu'à la prochaine occasion, et par exemple déjà en quittant cette pièce, je serai tout aussi fou que les autres. Qu'est-ce donc en nous qui pense et qui agit ? Comme c'est étrange, lorsque j'écoute de la musique ou lorsque je dirige, j'entends très précisément la réponse à toutes ces questions et j'atteins alors une sécurité et une clarté absolue. Mieux, je ressens avec force qu'il n'existe même pas de questions. Il est donc évident que Mahler a parfaitement dominé le trouble qui a été le sien pendant les mois qui ont suivi la mort de sa fille et son départ de Vienne, et non moins certain que ces événements l'ont transformé. Dans l'andante de la 9e, un ardent amour de la vie ressurgit sans cesse. Le compositeur Alban Berg, élève de Mahler, ne s'y trompe pas lorsqu'il écrit dans une de ses lettres. « Je viens de rejouer la 9e symphonie de Mahler, le premier mouvement et les plus admirables qu'il ait jamais écrit. Il exprime un amour inouï de la terre et son désir d'y vivre en paix, d'y goûter encore la nature jusqu'à son tréfonds, avant que ne survienne la mort. Car elle viendra inéluctiblement. Ce mouvement tout entier en est le pressentiment. Sans cesse, elle s'annonce à nouveau. Tous les rêves terrestres trouvent ici leur apogée. Et c'est là la raison d'être de ces montées gigantesques qui toujours se remettent à bouillonner après chaque passage tendre et délicat, surtout à ces moments terrifiants où l'intense désir de vivre atteint son paroxysme. Où la mort s'impose avec le plus de violence. Là-dessus, les terrifiants solos d'alto et de violon, les sonorités martiales, la mort en habit de guerre. Alors il n'y a plus de révolte possible. Et ce qui vient ensuite ne semble que résignation, toujours avec la pensée de l'au-delà. Dans le passage mysterioso, de nouveau et pour la dernière fois, Mahler se tourne vers la terre, non plus vers les combats et les exploits dont il a définitivement pris congé, comme il avait déjà fait dans l'Aslit von der Erde, avec les descentes chromatiques morendo, mais plus encore vers la nature. Aussi longtemps que la terre lui offrira ses trésors, il les goûtera. loin de tous les soucis, dans l'air libre et pur de Semmering. Il se construira une maison pour boire ses terres, le plus pur des airs terrestres, à grande lampée et toujours plus profondément, afin ainsi d'élargir sans cesse son cœur, le plus admirable des cœurs qui ait jamais battu parmi les hommes, afin que ce cœur s'agrandisse toujours jusqu'au moment où il cessera de battre. Magnifique lettre de Berg concernant Mahler. Nous sommes sur Ado Clapas, 93.5. Premier mouvement, Andante Commodo. Après les quelques mesures introductives, le mouvement initial adopte, comme beaucoup d'autres musiques mahlériennes, qui parfois s'accélère pour reprendre ensuite son cours inexorable. L'intensité dramatique qui parfois s'accélère pour reprendre ensuite son cours inexorable. L'intensité dramatique qui auparavant caractérisait les mouvements initiaux de Mahler fait place ici à une résignation douloureuse, accompagnée cependant de grandes bouffées de nostalgie qui parfois s'enflent jusqu'à la passion. On pourrait tenter au premier abord de considérer les premières mesures comme une introduction destinée à créer un climat, alors qu'elles exposent en fait la totalité de la substance mélodique du mouvement. Le rythme initial est partagé entre les violoncelles et le corps. C'est ensuite la harpe qui expose le motif de trois notes qui domine tout le mouvement. Et enfin le corps, cette fois avec sourdine, qui annonce le troisième motif fondamental, une simple batterie de tierces aux altos. Comme dans Das Lied von der Erde, la seconde descendante de violon joue tout au long du morceau un rôle symbolique. Au contraire de son modèle, le motif de l'adieu, de la sonate des adieux de Beethoven, ce motif de deux notes, fa dièse, mi, ne descend que jusqu'à la tonique et reste en suspens, donnant ainsi à l'œuvre une dimension ouverte sur l'infini. Or, ce même leitmotiv de deux notes, troisième et second degré de la gamme, avait justement achevé le chant de la terre avec le célèbre Evich de l'alto solo. Le premier thème a toute l'apparence de la simplicité, alors qu'il n'est jamais paré à lui-même et qu'il se transforme inlassablement, se fragmente et se divise entre plusieurs instruments. Ces métamorphoses successives lui donnent un aspect si fuyant, si mobile, qu'on a pu affirmer sans paradoxe qu'il n'existe pas vraiment et que l'ensemble de ces données thématiques ne sont que les variantes, les visages différents d'un thème souterrain que l'on trouve toujours mais qui n'est jamais vraiment exposé, même pas à la fin du mouvement. Après la double exposition de ce thème initial, les violons vont entendre en mineur le nouvel élément thématique plus passionné sur lequel les corps inscriront bientôt avant la reprise du thème principal un motif chromatique en triolet. L'importance symbolique du rythme syncopé des premières mesures s'affirme lorsqu'il réapparaît à trois reprises au cours du mouvement, comme la voix impérieuse du destin. Comme on l'a vu plus haut, à Landberg, il discerne un symbole de la mort. La coda qui va suivre suspend toute notion de temps. La flûte s'élève lentement vers l'extrême aigu, avant de redescendre peu à peu sur une terre dans une atmosphère raréfiée qui évoque les espaces interstellaires. Un souvenir lointain et comme attendri du thème principal conclut ensuite le morceau dans une atmosphère de résignation et de ferveur ineffable. Vous écoutez le début de la Neuvième Symphonie de Mahler, dans le début du premier mouvement, et c'est l'élève de Mahler, Bruno Walter, qui dirige l'Orchestre Philharmonique de Vienne. Il s'agit d'un live de 1938. Thank you. le début de la 9e symphonie de Mahler, Bruno Walter dirigeait l'Orchestre philharmonique de Vienne. Le second mouvement, In tempo eines gemächlichen Ländler, dans le tempo de Ländler confortable. Ce Ländler, qui tout d'abord est intitulé Menuet, est le plus rude et le plus caricatural de ce que Mahler a pu composer. Il tire une grande partie de sa saveur, de son orchestration, et cela dès les premières mesures où les motifs de gamme rapides sont confiés aux altos et aux bassons. Cette bizarrerie, cet humour grinçant et sardonique sont sans parallèle à cette époque, si ce n'est dans le Petrushka de Stravinsky et les musiques néoclassiques d'entre-deux-guerres, trois thèmes et trois tempi principaux alternent, un Ländler particulièrement rustique, puis une valse rapide qui s'accélère à plusieurs reprises dans un tourbillon de sauvagerie expressionniste, et enfin un second Ländler, Silan lui, qu'il évoque un menuet à l'ancienne. On va écouter la fin du second mouvement de la 9e symphonie de Mahler, et c'est le compositeur finlandais Leif Segerstam, dont la fille est violoncelliste principale à l'Orchestre de Montpellier, qui dirige le Danish National Radio Symphony Orchestra.
Thank you.
venons d'entendre la fin du second mouvement de la 9e symphonie de Mahler, Leif Segerstam, dirigé l'orchestre radio-symphonique du Danemark. Le troisième mouvement, Rondo burlesque, Allegro assai, très décidé, dédié dans l'un des manuscrits autographes à mes frères en Apollon, ce mouvement-ci surpasse encore le précédent dans la violence grimaçante. C'est une pièce de haute virtuosité orchestrale, un fugato à peu près permanent dans lequel tous les instruments assument tour à tour un rôle soliste. Mahler y déploie toutes les ressources de son métier de polyphoniste, mais comme pour se moquer du contrepoint lui-même, comme stérile la langue au savant qui, pendant toute sa vie, n'ont cessé de le couvrir d'insultes. Dans cette course à l'abîme, qui donne parfois le vertige, deux épisodes contrastants s'interposent. Le premier rappelle un passage du final de la 7e symphonie, lui-même inspiré par la Weiber Canson de la veuve joyeuse de Franz Lehár. Le second interrompt l'agitation fébrile du rondo. Avec beaucoup d'émotion, on y retrouve anticipé le motif essentiel du final, un simple gruppetto ornement au passé glorieux dans la musique baroque, classique et même romantique, et jusque dans celle de Wagner. Plusieurs fois, il prend une allure parodique, mais la parodie vient ici avant la lettre. En effet, l'adagio final utilisera plus tard le même gruppetto à des fins expressives. On va écouter la fin du troisième mouvement de la 9e symphonie de Mahler, et c'est Evgeny Svetlanov qui dirige l'orchestre de la Fédération de Russie. Evgeny Zeldanov dirigeait l'orchestre de la Fédération de Russie. Le quatrième mouvement est un adagio très lent et encore retenu, c'est écrit sur la partition. La grande phrase initiale des violons tient lieu d'introduction, tout en annonçant, comme c'était le cas au début de l'andante initiale, deux motifs essentiels, dont le principal est le fameux groupetto annoncé dans l'épisode de Langue du Rondo. Personne avant Mahler n'avait jamais eu l'audace de nourrir tout un mouvement de motifs aussi simples. La gravité solennelle du thème principal évoque celle d'un rythme religieux. Mais les fameux groupetti, des parties secondaires en croche ou en double croche, les enchaînements harmoniques parfois très surprenants et les innombrables dissonances en troublent le calme presque brunérien. Le second élément n'est pas moins frappant. Il est anticipé dans l'extrême grave entre les deux phrases du premier, puis franchement exposé à deux voix, séparé par un vide de plusieurs octaves. Sa simplicité, son dépouillement, même sa nudité solaire ont quelque chose d'effrayant. Ces deux éléments mélodiques principaux sont ensuite variés et l'ensemble est divisé en quatre grandes sections. Plus étonnant peut-être est la manière dont les motifs se fragmentent et se désagrègent lentement dans la coda, dans l'extrême douceur des cordes avec sourdine. Vers la fin, le fameux groupetto subsistera seul, de plus en plus lent, de plus en plus hésitant, comme idéalisé. La tendresse, la simplicité, la limpidité de cette conclusion rejoignent celle du Lied von der Herde, mais aussi à travers de bien des années, celle des leaders Heinz Fahrend Gesellen, qu'il avait composé à l'âge de 24 ans. Tout ce final, comme celui du chant de la terre, est imprégné de ce sentiment que Dieu est partout et en toutes choses, et que l'homme aspire à une union, voire une fusion avec la nature consolatrice. L'harmonisation définitive des deux univers, l'homme et la nature, que Mahler peut avoir voulu suggérer dans les deux principaux épisodes de ce final, sont consommés à la fin extrême de l'ouvrage dans l'acceptation, le silence et dans la paix. Mais c'est un tel repos infiniment doux et complètement accepté que suggère l'idéalisation finale du matériau, notamment dans l'ultime groupetto, peut-être envisagé comme une dernière subsistance de l'expression, c'est-à-dire de l'humain. On va écouter un extrait de cet immense adagio bouleversant qui arrache les tripes. Et il s'agit de Leonard Bernstein qui dirige le Concertgebouw Orchestra. Nous allons entendre un extrait du quatrième mouvement de Vème de Mahler. Bernstein dirigeait le Concertgebouw Orchestra. Quelques années plus tard, cet enregistrement, Bernstein va à Berlin et joue, quelque peu avant de mourir, cette 9e symphonie. J'ai choisi donc un extrait de toujours pareil de ce quatrième mouvement. Et là, pour le coup, Bernstein dirige l'Orchestre Philharmonique de Berlin. C'est bouleversant, déchirant, un moment d'éternité. nous venons d'entendre un extrait du quatrième mouvement dirigé par Leonard Bernstein à la tête de l'Orchestre Philharmonique de Berlin. Ainsi se termine cet examen de la 9e symphonie de Mahler. Vous êtes sur Radio Clapas, 93.5. Je vous donne rendez-vous donc pour la semaine prochaine pour la 10e symphonie, que Mahler bien sûr n'achèvera pas et n'entendra jamais, et qui fut achevée en 1960 par un compositeur britannique, Rick Cook. Je vous dis au revoir et à la semaine prochaine. Merci pour votre fidélité.